Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence d'intérêt général EDENI qui est enregistrée en live mais aussi disponible en podcast. Ces conférences ont lieu à peu près tous les mois sur des thématiques très différentes liées aussi bien à l'écologie, à la santé, à l'éthique, à la résistance, résilience, aux besoins de reliance aussi qu'on a entre nous dans un monde aussi chaotique, injuste et incertain que le nôtre. On a abordé des thématiques que je vous invite à retrouver sur la chaîne de podcast EDENI sur edeni.fr. Et puis, si vous voulez nous rejoindre pour une formation de transition écologique, et c'est avec grand plaisir. On a des retraites aussi en éco-sérénité. Plein d'actualités pour cette rentrée. Et malgré les circonstances un peu particulières de cette rentrée, avec forcément la crise sanitaire en tête et le fait qu'on ne puisse pas se voir en réel, bien, je suis ravie de vous retrouver pour aborder une thématique aussi importante que l'exode urbain. Est-ce envisageable ? Est-ce même souhaitable ? C'est une question qui revient très souvent auprès de nos élèves et dans les différents rencontres qu'on organise. Et c'est un sujet qui touche aussi beaucoup forcément nos invités qui vont pouvoir nous apporter leur éclairage sur cette question. Entre Agnès et Thomas qui ont fait le choix de vivre plutôt à la campagne, on verra ce que ça veut dire derrière ce mot un petit peu fourre-tout, aussi fourre-tout et incompris que le mot nature. Et au contraire, Ophélie et moi qui sommes en ville, même en capitale, et tout ce que ça revêt de négatif comme de positif, ce sera le sujet de la conférence du jour. Alors avant de laisser nos invités se présenter, je vais dresser un petit panorama des enjeux autour de cette question de l'exode urbain. On a tous appris l'exode rural, le fait que la France, les campagnes françaises se sont totalement dépeuplées depuis le début du XXe siècle. Mais on observe ou pas, c'est la question à laquelle on essaie de répondre avec des chiffres et des sources concrètes aujourd'hui, une volonté en tout cas d'exode urbain, de retrouver un petit peu plus de proximité avec la nature et surtout de répondre à cette question d'autonomie. Avec le sens, avec la peur de l'effondrement, etc., comment on fait pour repenser notre lien à un territoire ? Est-ce qu'il vaut mieux vivre rassemblé pour essayer d'économiser des ressources ? Est-ce qu'il vaut mieux, au contraire, essayer d'avoir un maximum d'espace autour de nous pour être en quasi-autonomie alimentaire ? Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, qui va vous faire rire, j'espère, d'Alphonse Allais, qui disait « Il faudrait construire les villes à la campagne car l'air y est plus sain ». Alors, au-delà du mot d'esprit, on va voir si vraiment l'air est plus sain à la campagne avec Thomas, géographe, urbaniste, environnementaliste qui a étudié cette question. On verra aussi si la végétalisation en milieu urbain est vraiment possible avec Ophélie. Et puis on verra aussi que la campagne peut être aussi un lieu abandonné, un lieu mythique, imaginé, rêvé, qui ne correspond pas forcément à ce qu'on imagine dans nos esprits. Et surtout, est-ce qu'il est possible vraiment pour toutes et tous de rejoindre cette campagne ? Il y a un petit chiffre en introduction et je terminerai là-dessus que j'aimerais vous donner. C'est celle de la densité urbaine comparée à la densité de la campagne et de voir si vraiment il serait possible de tous aller vivre à la campagne. Si on éparpillait juste les habitants de Paris intramuros, donc déjà c'est très limité par rapport à l'agglomération parisienne, c'est 105 km² avec une densité de 21 000 habitants par km². Et la densité moyenne de la France est 115 habitants par km². Donc si on éparpillait les habitants de Paris intramuros avec la densité moyenne française, ils occuperaient ensemble tout l'espace territorial de la Gironde et de la Dordogne, soit 19 km². Ce qui fait dire, donc, dans une étude de l'INSEE parue en juin 2011, que les habitants des pôles urbains émettent deux fois moins de CO2 que les habitants des campagnes. Mais bon, c'est évidemment à nuancer et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec nos trois invités que je vais laisser se présenter. Je vais commencer tout de suite à ma droite par c'est Ophélie. Plus facile. C'est plus facile. Ophélie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Ophélie, j'ai 31 ans et j'ai grandi à la campagne. J'ai quitté l'Ariège à l'âge de 17 ans pour monter à la capitale et travailler d'abord dans le secteur culturel. Et puis, il y a 3 ans, j'ai changé de vie et je me suis tournée vers l'agriculture. Alors, d'abord à la campagne pour me former, mais j'avais ce besoin irrépressible de revenir en ville. Et donc, j'ai très rapidement travaillé dans l'agriculture urbaine. Et aujourd'hui, j'arrive à trouver cet équilibre entre nature et ville. Et surtout, je me rends compte que j'ai vraiment envie de participer à la transformation de la ville dans le bon sens du terme. Et pour moi, repartir à la campagne, ça pourrait peut-être être quitter le bateau, quitter le navire, mais on en discutera avec tout le monde. Voilà, c'est ça mon postulat. Donc aujourd'hui, j'ai monté une pépinière de quartier dans le 93 où j'y produis des plants potagers, de plein de choses comestibles pour que justement les citadins puissent végétaliser leur micro-espace où il y a de la terre. Et puis, j'ai toute une partie pédagogique aussi où je forme via des ateliers et aussi via des vidéos sur ma chaîne YouTube et en livre.
On en reparlera tout à l'heure. Ok, super. Merci beaucoup, Ophélie. Thomas, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans. Je suis géographe de formation. J'ai une licence en aménagement du territoire et puis après, j'ai étudié aussi les espaces, les dynamiques des milieux, les risques naturels qui y sont associés. Pour ensuite finir à la Sorbonne sur effectivement des études d'impact sur les milieux suite à des projets d'aménagement en milieu périurbain. Et suite à ça, j'ai aussi travaillé dans beaucoup de domaines, autant le courtage en crédit immobilier que le ménage à côté de Disneyland ou encore le ramassage d'ordures dans les déchets également. Et ça m'a permis de développer une réelle approche systémique des phénomènes, c'est-à-dire que j'essaie de sortir des carcans disciplinaires pour pouvoir mieux comprendre un petit peu les phénomènes qu'on a sous les yeux. Voilà.
Super. Eh ben, merci beaucoup, Thomas. Et tu nous parleras aussi des études que tu as faites très importantes sur les cycles de l'eau, par exemple en milieu urbain, ou les montagnes qu'on rase.
J'en parlerai, il n'y a pas de problème.
Super. Merci, Thomas. Agnès, je sais que tu es dans un lieu collectif à présent, donc on va voir si on arrive à bien t'entendre, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ah, on n'entend pas Agnès, il y a un petit problème de connexion.
Vous m'entendez ?
Oui. Bon, on t'entend.
Alors, ça fait donc à présent un peu plus de 7 ans que j'habite dans l'Allier. Je viens de sortir vainqueur avec mon compagnon de 7 ans de rénovation, à nous deux. Et je suis multidisciplinaire, c'est-à-dire que j'ai fait plein de boulot dans des domaines différents, généralement précaires, ce qui me permet d'avoir pas mal de liberté pour m'impliquer au niveau associatif et avoir plein de projets. Donc,
voilà. Multi-casquette artisane à la campagne et multi-restauratrice de bâtiments anciens.
C'est ça. J'apprends tout ce que je peux apprendre.
Merci, merci Agnès. Et ben on va commencer directement à rentrer dans le cœur du sujet avec cette double interrogation de l'exode urbain. Est-il envisageable? Est-il souhaitable? Ophélie, quel est, toi, ton rapport à la ville et à cette problématique, sachant que tu viens de la campagne, tu es arrivée dans un milieu ultra-urbain tout en ayant cette volonté d'y apporter de la nature. Et maintenant, tu vois, j'imagine, comme moi, une grande partie de notre génération avoir cette envie, cet appel de la campagne, de la nature et de repartir. Et toi, au contraire, tu as décidé d'installer ta pépinière en plein centre urbain à côté de voies de chemin de fer. Qu'est-ce qui t'a motivé et quelles sont tes interrogations et tes apprentissages sur le sujet ?
Alors, J'adore la ville parce que en venant de la campagne, j'avais certains manques plus jeune, donc d'accès à la culture par exemple, de problèmes pour me déplacer. Et je fantasmais cette idée de la ville. Et ça fait maintenant plus de 10 ans que j'y vis. Et effectivement, il y a eu un moment où, comme tout le monde, je pense, j'ai subi le béton. Je me retrouvais constamment enfermée quelque part, complètement hors sol. Et je pense que, c'est dans ma nature aussi, je ne supporte pas être victime de quelque chose et je préfère ne pas fuir la situation mais faire en sorte qu'elle change. Et c'est là où j'ai trouvé un petit peu ma place aussi dans l'agriculture urbaine et aussi la green guérilla, qui est une manière de se réapproprier l'espace public en végétalisant, mais avec cette dimension un peu de désobéissance civile, puisqu'on ne demande pas l'autorisation, on s'empare de lieux où il y a de la terre, ou même on accroche des bacs, on suspend n'importe quoi, tant que c'est du végétal. Et moi, ça a été vraiment une manière de me réapproprier cet espace, de me réancrer aussi, parce que c'est des lieux beaucoup de passage. Et là, le fait de même, pourquoi pas, faire péter du béton, j'y trouvais en fait beaucoup de sens. Et il y avait aussi une manière pour moi pour moi, quitter la ville pour aller à la campagne, c'est quelque part aussi parce que j'ai peut-être les bons outils pour le faire. Je viens d'un milieu, classe moyenne, éduquée, et je me dis que j'ai peut-être suffisamment de savoir pour monter des écolieux ou des choses comme ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'ai vraiment envie d'aller plutôt dans des zones assez dites hostiles, parfois même abandonnées par les pouvoirs publics. Et je pense par exemple à des quartiers, des cités où on est en complet désert alimentaire. Alors quand je parle de désert alimentaire, c'est juste l'accès aux fruits et légumes frais de saison. En fait, il n'est pas du tout le même. Et je me dis, c'est là aussi où il y a des choses à faire, des jardins partagés, à créer, mais sans forcément attendre des pouvoirs publics que les choses soient mises en place. Est-ce que je réponds un peu à ta question ou je dégraissais?
Non, moi, ce que j'aime bien aussi dans ton approche, sur laquelle on a plusieurs fois discuté, c'est de se dire... Premièrement, partir à la campagne, même si vivre en agglomération coûte cher, mais c'est aussi là où il y a des emplois. Mmh. Et donc, tout le monde n'a pas les moyens, premièrement, de se priver de cette source potentielle d'emploi et d'aller à la campagne pour réinventer, et ça peut être des jobs encore plus difficiles. Et puis, deuxièmement, au-delà de cette opportunité du marché du travail que cette société capitaliste a créée, on a aussi la question d'avoir le patrimoine et le capital culturel disponible pour envisager d'aller vivre à la campagne, d'être en autonomie, de redécouvrir la permaculture, etc. Alors que la fuite de la campagne a d'abord été la fuite des conditions de vie extrêmement difficiles qu'il y avait d'antan avant qu'il y ait l'accès à l'eau potable, à l'électricité directement partout à la campagne. Et donc, on a encouragé des masses de populations entières à se rassembler en ville au nom de l'amélioration de leur confort, du développement, etc. Et du coup, eux ne sont pas forcément formés, n'ont pas forcément les armes pour ne serait-ce que d'imaginer la possibilité de retourner à la campagne, sans parler de cette possibilité financière aussi de le faire. Et donc, toi, tu as cette notion de combat urbain au nom des populations qui sinon seraient abandonnées à leur misère bétonnée, quoi.
Oui, complètement. Typiquement, cette pépinière de quartier dans le 93, elle a un réel intérêt, au-delà du productif. J'ai fait le deuil sur le fait que la ville peut être autonome au niveau alimentaire, et ce n'est pas le but. En plus, l'idée, ce n'est pas de cloisonner la ville et la campagne. Par contre, cette dimension pédagogique de montrer comment une tomate pousse, ça permet aussi de juste revoir comment on consomme ensuite ces fruits et ces légumes. Mais si on réapprend pas tous ces gestes, tout ça, le lien avec la campagne ne peut pas se faire, en fait. Mm.
Thomas, toi, tu me disais en préparation de ce podcast qu'on a un mythe aussi, on idéalise totalement ce que veut dire la campagne, et qu'en réalité, en France, il n'y a plus vraiment de campagne nature, sinon une multiplication des zones périurbaines. Et au contraire, on devrait plutôt envisager une sanctuarisation du peu d'espace nature, si tant est soit que c'est un sens de parler de nature, plutôt que d'essayer de retourner et de réhabiter ces territoires si peu nombreux et encore plus ou moins sauvages.
Oui, alors il faut pas associer, je pense, campagne à nature, tout simplement, dans le sens où la campagne n'est pas naturelle à proprement parler. Enfin, après, c'est toujours le débat du positionnement de l'homme par rapport à la nature. Est-ce qu'il est hors nature? Est-ce qu'il est dedans? Mais quand on dit qu'on est rentré dans l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on évalue que même dans les océans, il y a des impacts des activités humaines, pardon. Donc, sinon, la campagne en France, ça fait des siècles qu'elle est rurale, agricolisée, enfin, qu'elle est habitée par les hommes, donc elle n'est pas très naturelle à proprement parler. Ouais. Donc, la nature, on l'idéalise que ce soit à la campagne ou en ville, en fait. C'est-à-dire, il y avait un grand paysagiste jardinier anglais qui s'appelait Capability Brown, Lancelot Brown, qui était enfin, le jardinier de la reine et qui nous allait au XVIIIe siècle. Et qui nous a laissé l'héritage des jardins anglais en ville, dans les villes, où justement il est arrivé en rupture avec le conformisme de l'époque, la mode qui était plutôt le paysage, enfin les jardins à la française, à la Versailles, où on montre la domination de l'homme sur la nature avec des jardins très géométriques, tout droit. Enfin, et donc l'objectif de Capability Brown, c'était de ramener une nature idéale en ville. Avec du coup une approche paysagère qui consistait à créer un paysage comme un tableau, à l'image d'un tableau, avec même un tableau vivant en fait, hein, même avec il mettait même des biches dedans pour donner vraiment cette image de nature en ville. Donc c'est une question vraiment géographique, c'est le cœur de la géographie, hein, qu'elle soit urbaine, rurale, on aime bien la dichotomiser en plein de cases. Géographie du paysage, géographie. Tout ça, c'est éminemment les interactions des sociétés humaines et de leur espace. Donc, en fait, cette histoire de nature en ville, elle est centrale, même à des moments où ils ne s'en souciaient pas beaucoup. Il y avait toujours un petit peu de nature ou de campagne pas loin, parce qu'il y avait la question alimentaire notamment. Donc, même à Paris au 19e siècle, par exemple, à Saint-Ouen, je crois, ou peut-être à Montreuil, il y avait des vergers, des pêchers dedans, on utilisait justement le rayonnement des murs en pierre pour aller un petit peu chauffer les arbres et avoir des fruits un petit peu plus sucrés. Donc, on a, je pense, plus un retour, un renfort des zones autour de la ville, des zones périurbaines notamment. Alors, même ça, tout est en constante évolution, hein. Donc même les définitions, ce qu'on appelait le périurbain, maintenant on l'appelle le rurbain, on appelle ça une ceinture. On a vraiment un foisonnement de notions qui émergent à l'heure actuelle aussi sur des champs urbains, des forêts urbaines. Et ça vient vraiment sur les périphéries des villes, que quand on regarde effectivement l'INSEE ou d'autres, on voit que c'est les hypercentres historiques qui constituent la France en fin de compte. Qui arrive peut-être à un seuil de saturation démographique. Et donc, on a, notamment avec l'aspect du prix du foncier, on a aussi des gens qui vont aller habiter plutôt en première et deuxième couronne, et même voire dans l'Oise à Paris, parce qu'on est un petit peu entre la ville et la campagne. Voilà. La nature, j'ai envie de dire, c'est encore autre chose parce qu'effectivement, elle n'est pas associée forcément à un idéal. Elle est beaucoup associée aussi à des peurs ancestrales, à des difficultés. Le confort fait qu'il y a effectivement eu cet exode rural et qui peut-être à terme a saturé certains espaces urbains où il y a de réelles problématiques en termes de nuisance. C'est-à-dire, on a eu. Même avant la crise du Covid, il y a eu la crise de 2008 où il y a eu des problématiques économiques importantes. Avant, il y a eu les canicules de 2003. Il y a eu les attentats aussi. Il y a une somme de facteurs qui peuvent parfois faire peur en ville, mais là aussi, c'est pas nouveau. Et c'est toujours pas une obsession, mais c'est toujours central dans les projets d'aménagement, chez les urbanistes, chez les politiques. D'associer des enjeux économiques et de créer des aménagements du territoire qui ne soient pas trop anxiogènes et qui ne créent pas trop de nuisances à terme.
Alors justement, il y a effectivement un excellent ouvrage, La peur de la nature, qui évoque justement cette fuite des espaces trop sauvage, ou du moins ce qu'il en reste, parce que soumis aux aléas des tempêtes, à l'isolement, voilà, on peut ne plus avoir d'électricité, ne plus avoir d'eau, etc. À l'inverse, les villes qui sont des lieux festifs, sociaux, de rassemblement, comportent aussi leur déficit de résilience et leurs risques, parce qu'elles sont ultra dépendantes d'une logistique extrêmement bien huilée qui, au moindre petit couac, peut totalement exploser. Tous les géographes et environnementalistes s'accordent à dire qu'on attend dans les prochaines années, ou peut-être dizaines d'années, la nouvelle grande crue de la Seine à Paris, qui immobilisera totalement la capitale pendant plusieurs semaines. Or, une simple grève du secteur routier, des transporteurs par exemple, viderait l'intégralité des stocks alimentaires intramuros en seulement 3 jours. C'est-à-dire qu'en 3 jours, il y aurait une panique et une pénurie alimentaire dans Paris, comme on l'a vu sur des exemples très précis et aussi anecdotiques que le manque de beurre ou le manque de farine. On a aussi le fait que pratiquement l'intégralité des eaux usées de Paris sont toutes traitées au même endroit en Essonne. Et si ce centre de recyclage des eaux vient à être en panne, à exploser, à perturber, eh bien, c'est une densité de population extrêmement soumise à un risque qui repose sur rien. C'est un peu le colosse au pied d'argile, alors que en zone plus de campagne, eh bien, on peut éventuellement, avec un réseau solidaire d'habitat, eh bien, s'entraider avec une autre personne. Il y en a qui sont plus en hauteur et qui vont moins avoir, voilà, être soumis aux crues, d'autres au contraire qui seront dans des zones moins sèches si jamais il y a un feu, etc. Et on est capable d'être un peu plus résilient, c'est-à-dire de s'adapter après une crise. Et notamment à la campagne, on peut avoir éventuellement, et encore une fois, ça dépend ce qu'on appelle campagne, puisque tu nous disais pratiquement tout ce qu'on appelle campagne est artificialisé, et même dans les jolis petits villages de Bretagne, par exemple, on retrouve des McDo et des zones commerciales un peu partout. Mais on peut imaginer avoir des ceintures maraîchères assez proches des villages et avoir 400 mètres carrés par famille, par 4 personnes, pour l'autosuffisance alimentaire, ce qui est difficilement faisable en ville, même si tu me disais tout à l'heure, Ophélie, qu'on oublie très souvent de parler des potagers familiaux et ouvriers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, je suis tombée sur pareil, des chiffres intéressants donnés par Flaminia Padeux, qui est un docteur en géographie. Je ne sais pas si tu la connais, Thomas, mais elle a travaillé sur les mouvements de justice environnementale et alimentaire. Et elle indiquait qu'en Ile-de-France, on a 73 hectares de surface cultivée et la moitié sont des jardins familiaux et ouvriers. Et ça, c'est un truc qu'on invisibilise souvent, en fait, tous ces potagers privés qui sont aussi une forme de solution d'autonomie alimentaire concernant vraiment des populations plutôt dans le besoin. Là, on n'est pas sur le bobo trentenaire comme moi qui veut faire pousser 3 tomates. Là, on est vraiment sur des populations fragiles qui ont encore accès à ces choses-là. Et en tout cas, moi, pour ma part, je trouve ça très important de les mettre en lumière, de montrer que ça existe, qu'il faut que ça soit protégé. Et c'est là où je trouve que tous les mouvements, par exemple, de ZAD, de zone à défendre, sont hyper intéressants parce qu'elles, c'est vraiment des formes de lutte très, très concrètes pour protéger des terres. Et donc, c'est comme ça que des citoyens très lambda, en plus, on n'est pas forcément sur des activistes forcenés, mais juste des citoyens qui ont envie de protéger des zones et qui en font des jardins partagés, le temps de se faire parfois dégager. Et voilà, moi, je trouve ça très, très important et nécessaire de le rendre le plus populaire possible, en fait, de se dire que ce n'est pas que des activistes, des gens qui sont depuis très longtemps dans l'écologie ou même dans le jardinage, qui peuvent se réemparer de ces espaces-là. Ils sont de moins en moins nombreux, mais...
Il y a des initiatives comme ça populaires à Détroit.
Oui, complètement. À Détroit, j'ai lu qu'il y avait 100 000 terrains vagues qui avaient été transformés en jardins partagés au moment où il y a eu cette grosse crise économique. Et je trouve ça hyper intéressant comme modèle. Il y a eu des emplois créés.
Et ça sort de la vision élitiste, bobo, du petit jardin sur sa terrasse, quoi.
Ouais. Alors en France, je pense que Paris, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est beaucoup plus dense. Et je pense que ça ne sera pas réalisable.
Non, je disais Détroit, c'est vrai que c'est un cas très intéressant, mais qui a été vraiment frappé très très durement par la crise économique, notamment de l'automobile. Et là, vous avez un petit peu un retour de nature en ville. C'est-à-dire que c'était des zones complètement abandonnées qui se sont retrouvées, mais ce n'était pas des initiatives de personnes. Là, c'est vraiment des dynamiques de la nature qui revient en ville, qui se développe, et c'était assez saisissant. Ouais.
Il n'y a pas eu un programme par les pouvoirs publics, par la mairie, pour justement laisser ces espaces être occupés au lieu d'être…
Mais paradoxalement, ça a donné une visibilité un peu comme le jour d'après, où, qui s'est révélée d'elle-même un petit peu un mix nature-ville qui a séduit beaucoup plus qu'on pouvait s'y attendre, en fait. Donc, ils ont un petit peu surfé sur ce retour de la nature, pour le coup, en ville, réintéresser, refaire la promotion de l'image de la ville.
Puis, il y a une question de survie aussi, comme tu le disais, Ophélie, une question de survie alimentaire. Quand on est sur un désert urbain, il y a plusieurs documentaires comme ça qui montrent cette injustice sociale absolument indigne, où parfois il faut faire plusieurs kilomètres en voiture pour pouvoir arriver à un primeur dans certaines zones du Bronx, par exemple, alors qu'il y a des McDo, des Burger King, etc., à tous les coins de rue. Et donc, il y a aussi une question de justice sociale, un peu comme les Black Panthers qui organisaient des distributions alimentaires dans les quartiers, de se réapproprier ces zones et de pouvoir enfin habiter un territoire et non pas seulement le hanter entre venir dormir chez soi et puis faire plusieurs kilomètres pour aller à un boulot et puis plusieurs kilomètres pour aller s'alimenter et revenir, de la même manière que dans cette campagne française qu'on idéalise souvent, en réalité on observe des croissances hallucinantes de taux d'occupation des centres commerciaux le week-end, qui sont devenus une sorte d'attraction et de sortie du dimanche pour certaines personnes qui sont toujours attirées et victimes de cette société de surconsommation auquel on vend un modèle de mode, d'hyper-consommation à base de publicité, etc. Et donc, n'ayant pas accès au quotidien comme des habitants urbains qui sont du coup plus impliqués invités à consommer au quotidien, et vont se retrouver le week-end dans ces centres et finalement pas forcément consommer beaucoup moins que des personnes habitant en ville. Il y a aussi la question en ville de l'énergie, de la mutualisation, de l'efficience des services. On peut avoir un hôpital pour beaucoup de personnes et on peut avoir des transports en commun efficaces, on peut avoir du chauffage collectif. Alors qu'en campagne, paradoxalement, et c'est vraiment la double peine, non seulement en général on a besoin de davantage prendre de voitures, de consommer d'essence, mais aussi on a une isolation qui parfois laisse à désirer et une énergie plus chère. Comment on analyse ça d'un point de vue pro et contre exode urbain ?
Moi, je voulais juste rajouter, en tout cas pour ma part, qu'en termes d'agriculture, ce qu'on peut voir, c'est que, alors d'un côté, l'agriculture urbaine ne va pas nourrir la ville dans son entièreté. En revanche, il y a certains types d'agriculture de niche, et là, je pense par exemple aux apiculteurs, pour qui la ville est presque un terrain beaucoup plus qualitatif que celui de la campagne, parce qu'il y a moins de pollution pour les abeilles, ou en tout cas, ce n'est pas la même pollution, et ça les tue beaucoup moins qu'à la campagne. Je pense aussi à tous ces espaces, les champignonneraies aussi, qui sont en train d'être parfois réhabilitées, des cultures comme ça, de micro-pousses, de choses comme ça, qui sont très intéressantes. Alors c'est sûr qu'on ne va pas faire du blé par exemple à Paris, ou en tout cas ce serait anecdotique, mais pour certaines choses je trouve ça hyper intéressant et qu'on sorte du fantasme en fait de campagne égale nature, effectivement. Je te rejoins, Thomas.
Et sans parler, il y a vraiment un aspect aussi, c'est la complexité de ces phénomènes, c'est-à-dire quand on étudie que ce soit la ville ou les mouvements démographiques, on est vraiment sur des systèmes complexes. Et il ne faut pas tomber, je pense, trop vite dans le piège des représentations. Et cette histoire de végétalisation urbaine, d'exode urbain, je l'associe plus à une évolution du discours, notamment de politique, d'aménageurs. Il y a aussi l'aspect démocratique, citoyenneté. Est-ce que les citoyens vont peut-être enfin participer à l'élaboration, entre guillemets, de certains aspects paysagers? Parce que pendant longtemps, les aménageurs, les urbanistes, les géographes, ils ne se parlent pas beaucoup entre eux, en fin de compte. Ce qui fait qu'il y a plein de projets d'aménagement qui sont faits indépendamment de considérations paysagères, comme tu parlais des trams, des McDo. Ça croise tellement de facteurs que c'est extrêmement complexe. Là-dedans, bon, on a vu les dernières élections municipales où il y a eu pas mal de mairies qui sont passées chez les Verts. Et même les autres partis politiques vont vouloir un petit peu incarner la transition, vont vouloir un petit peu montrer, et notamment par le paysage, qu'ils agissent, qu'ils sont là pour réduire le réchauffement climatique, verdir la ville. Alors, il y a évidemment un intérêt là-dedans à l'échelle micro-locale. On peut très bien revégétaliser à Pantin, même tout autour. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est très bien à l'échelle micro-locale. Ça ne changera pas beaucoup au niveau global, même s'il y a cet adage qui vous dit il faut penser global quand j'agis localement. Ce sera toujours mieux de végétaliser ça dans tous les cas. Mais ce n'est pas la nature. Je veux dire, des forêts urbaines, ça n'a rien à voir avec une forêt. Planter 10 000 arbres, ça n'a absolument rien à voir avec une forêt. Les forêts, c'est pareil, c'est des mécanismes complexes, c'est des systèmes complexes. Et c'est tout le problème des surfaces. C'est-à-dire que si je mets 10 parcelles de 10 hectares de forêt, ça n'a rien à voir avec une forêt d'un seul tenant qui fait plusieurs milliers d'hectares. Il y a les effets systémiques, synergiques qui sont essentiels dedans. Et il y a une réelle révolution là-dedans. Il va falloir, je pense, prendre parti parce qu'il y a une agriculture classique qui ne va pas être notre amie. Il y a des logiques de marché qui ne sont pas d'accord avec ça, qui sont plus sur un monopole. Si on parle des OGM, des Monsanto, la culture intensive, c'est quand même ce qui domine encore le terrain, hein, et qui ne vont pas céder leur place comme ça facilement. Voilà.
Alors, dans cette destinée cartésienne de se rendre maître et possesseur de la nature, cet aménagement du territoire, il y a une thématique, Agnès, que je sais qui te touche beaucoup, c'est l'arrogance des élites urbaines, et à juste titre, qui s'approprient totalement des zones à la campagne et qui vont y mettre un petit peu ce dont ils n'ont pas envie d'avoir près de chez eux. Ça fait aussi référence à tout mouvement Nimby en Angleterre, Not in my backyard. Donc, on va y mettre une zone d'enfouissement des déchets radioactifs, on va y mettre une zone de recyclage des eaux usées, on va y mettre un abattoir de porc qui va rejeter ces eaux usées. Finalement, les habitants de ces territoires vont être les perdants d'une politique décidée très très loin de chez eux. Agnès, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi qui es consciente de créer une association contre ça?
Alors, je ne suis pas toute seule, donc j'ai encore de la vie autour de moi. Moi, surtout, ce que j'aimerais dire par rapport à ce qui vient d'être dit et au fait que l'agriculture actuelle, telle qu'elle est pratiquée actuellement, ne va pas être notre amie, c'est que dans l'agriculture, il y a des gens dont on ne parle pas souvent, c'est des agriculteurs. C'est que l'agriculture, c'est pareil, c'est un mot fourre-tout, mais c'est tout un système dans lequel il y a des gens. Et effectivement, moi, je pense que si on reprend le thème de la soirée, l'exode urbain est-il envisageable ou souhaitable? Ce que j'aimerais voir un peu plus, c'est un exode urbain qui permettrait d'avoir un peu plus de répartition de la population en notre faveur dans des zones où on aurait besoin de gens pour créer des structures accompagnant les agriculteurs vers une transition et non pas les laisser seuls avec le système complètement imbriqué dans le système actuel, en réalité. Il y a un énorme travail de création de partenaires différents de ceux qu'ils ont actuellement et qui ne leur laissent aucune autre possibilité de sortie.
Et alors toi qui as passé aussi 7 ans en restauration de bâtiments, est-ce que de ton témoignage particulier dans la zone dans laquelle tu évolues, tu penses qu'il y aurait suffisamment de zones d'habitat à réaménager plutôt que de construction? Parce que c'est aussi le grand défaut, enfin, ce qu'on pointe souvent du doigt dans l'exemple urbain et dans tous ces Parisiens et Parisiennes, et j'en ai beaucoup des amis qui veulent partir à la campagne, mais qui voudraient fonder leur éco-village, installer leur tiny house, etc. Et donc participer à une accélération d'artificialisation des sols, alors qu'en parallèle, j'ai un chiffre que j'ai trouvé là, cet après-midi, c'est 2 fermes disparaissent toutes les heures en France. Donc ces fermes, elles ont des bâtiments, potentiellement évidemment à réaménager, potentiellement mal isolés, potentiellement ça coûte beaucoup plus cher que de fabriquer quelque chose de nouveau. Néanmoins, c'est ce qui permettrait effectivement à une repopulation intelligente, on va dire, de petites zones autogérées, permacoles, autonomes et imbriquées solidairement. Est-ce que tu penses que c'est envisageable ou c'est un mythe total d'avoir suffisamment de zones à réaménager en campagne ?
Je ne peux pas représenter l'ensemble de la province. Mais par contre, dans la zone où je vis, les villages qui entourent, qui font partie du territoire, pourraient tous avoir une population, à mon avis, largement multipliée par 2, et j'envisage même parfois 3x4, uniquement en rénovation de bâtiments. Et oui, effectivement, on voit une quantité incroyable de bâtiments qui tombent uniquement parce que les fermes grossissent, achètent les bâtiments, les laissent tomber, voire les gardent uniquement pour le cas où on ait besoin d'un hangar plus tard et ne pas avoir besoin de repartir sur ce qui existe déjà sur le cadastre. Et donc, il y a de la place sans répartir de manière totalement égale. Il y a de la place pour rénover et sans prendre sur le...
La rénovation, elle fait souvent peur à des personnes qui veulent s'installer en province. Est-ce que c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus compliqué que la construction à partir de rien?
Alors, il faut prendre en compte le coût de la vie. C'est-à-dire que quand tu rénoves, ça va... Nous, on a fait le calcul avec ce qu'on gagnait et on ne gagnait pas grand-chose. On a toujours été des gagnants petits. Moi, j'ai arrêté de travailler pour qu'on puisse rénover plus rapidement et je m'y retrouvais mieux qu'en payant des artisans sur beaucoup de postes en réalité. On a payé des artisans sur 2 postes importants et tout le reste, on l'a fait nous-mêmes. Et on a mieux vécu comme ça que si on avait travaillé tous les deux à temps plein et qu'on avait rémunéré intégralement la rénovation.
Et tu me confirmes que tu ne connaissais rien à la base? Tu as vraiment appris sur...
Non, je ne connaissais rien.
Rien du tout. Alors, avis à ceux qui écoutent ce podcast parce qu'ils envisagent d'aller rénover un bâtiment, c'est possible d'apprendre et de faire avec soi-même, même si c'est très bien aussi de participer à l'économie locale et d'encourager la survie d'artisans ou de plans solidaires.
Très bien. C'est une question de budget, de répartition de son budget.
Et Agnès, tu me disais aussi qu'il y a un abattoir ou un élevage porcin qui est envisagé en construction près de chez toi et la population n'a pas du tout été partie prenante dans cette décision de permis de construire.
Eh bien non, on a aussi un problème de politique, c'est-à-dire qu'on est peu nombreux, tout le monde se connaît et même les voisins proches du projet de porcherie, donc c'était un projet d'extension. Hein. La majorité des projets de porcherie industrielle vers chez nous sont des projets d'extension. Sauf que les gens se connaissent, donc les gens ne vont pas avoir problème les uns avec les autres. Et du coup, ça fait accepter des choses qui, en réalité, si on avait un peu de recul, sont totalement inacceptables. Et puis, on sait très bien, enfin, tout indique que ce n'est pas la voie à prendre de continuer à augmenter la production porcine. Mais bon, là, je pourrais vous en parler des heures. C'est un peu...
On s'éloigne.
C'est difficile de comprendre ce sujet pour moi.
Ouais. Bon, merci beaucoup, Agnès. Thomas, en référence justement à la pollution et à l'air, avec cette petite, avec ce trait d'esprit d'Alphonse Allais que j'évoquais au début, il faudrait construire les villes à la campagne parce que l'air y est plus sain. Ta perception et les études que tu as faites et ton travail notamment sur des études avec le CNRS ou autre, ou sur l'air à la campagne, indique que ça peut être aussi une fausse vision qu'on a de la campagne. Agnès l'évoquait rapidement avec l'agriculture intensive et les pesticides. Ce que tu pourrais nous apprendre à ce sujet ?
Et que c'est encore effectivement très compliqué. Ça, c'est le premier point. Il y a de tels croisements d'échelles dans les problématiques de pollution atmosphérique, et notamment des phénomènes de transport, qui fait que la pollution qui est émise à des endroits bouge, notamment en fonction des polluants. Donc, plus vous avez un polluant qui est stable, plus il va rester longtemps dans l'atmosphère. Vous avez certains gaz polluants qui peuvent rester 3000 ans dans l'atmosphère. C'est par exemple les CFC qui font des trous dans la couche d'ozone. Donc, même si on est loin de la ville, la pollution de la ville, elle peut très bien venir être advectée chez vous, hein, et se bloquer dans une vallée, notamment dans les Alpes. Hein, il y a beaucoup de masses de pollution qui viennent de tout le nord de la France ou de l'Allemagne. Il faut regarder bien sûr les flux de circulation atmosphérique, mais la pollution, elle bouge, elle ne reste pas sur place. Donc, le problème, c'est que ça augmente un petit peu partout les pollutions de fond, c'est-à-dire que les polluants, ils vont partir avec l'atmosphère, mais ils partent aussi dans l'eau. Et puis après, quand ils sont dans l'air, ils vont réagir avec le soleil, ils vont retomber aussi via les pluies. Donc, on peut avoir beaucoup de phénomènes de pollution atmosphérique, et notamment dans des endroits très éloignés de là où ils ont été émis. Voilà. Alors qu'on peut avoir, c'est pour ça qu'on parlait de l'Anthropocène, on peut avoir des forêts en Sibérie qui sont extrêmement éloignées d'implantations humaines et qui sont vraiment abîmées par des pluies acides, par des choses comme ça. Donc, il faut regarder vraiment en local. On ne peut pas, encore une fois, généraliser. Hein, il y a l'aspect émission. C'est sûr qu'il vaut quand même mieux quand on est au bord d'un périphérique ou d'une autoroute qui a 10 000 véhicules par heure. Là, on est directement exposé. Mais malheureusement, cette pollution, elle va bouger, elle va migrer et contaminer petit à petit tout l'environnement. Donc, ça va avec autant l'acidification des océans. On parlait de stations d'épuration, parce qu'il n'y a pas que la pollution de l'air, il y a aussi tous les rejets des eaux usées, il y a les épandages. En campagne, le problème, c'est les cultures intensives. C'est de la monoculture sur des surfaces énormes où on met des pesticides, des engrais, parce qu'on a des soucis de rendement. Les épandages, vous avez plein de cas où ça a posé des problèmes, même avec les petits bourgs qu'il y a à côté, quand il y a une petite école, ils n'ont même pas fait attention. Il y a eu des cas graves parce qu'ils ont épandé alors que les gamins, ils étaient à l'école. Et ça, même si on peut faire des écolieux, se mutualiser, parce qu'il y a les réseaux un petit peu d'agriculture alternative, hein, toute la permaculture, l'agroforesterie. Si vous êtes sous le vent de la Beauce, hein, ou de parcelles énormes où on épand massivement, vous allez prendre tout ce nuage quand même de pollution chez vous. Donc, ça va impacter les insectes, le système chez vous aussi. Donc, le vrai problème de la pollution, c'est qu'elle se diffuse. Elle se diffuse de façon très complexe. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont même mal connus, hein, que ce soit au niveau de la photochimie, parce qu'après, le problème aussi, c'est le rayonnement solaire qui va réagir avec ces polluants précurseurs pour créer notamment de l'ozone, et de l'ozone troposphérique, donc de l'ozone en basse couche, parce que sinon l'ozone, normalement, il est au niveau de la stratosphère, et là, heureusement, parce que sinon, on ne serait pas là. Il y a des précurseurs naturels d'ozone aussi. Les plantes sont des précurseurs naturels d'ozone, c'est-à-dire qu'on peut avoir des phénomènes de pollution par l'ozone en basse couche suite à des émissions de composés organiques volatiles qui sont issus des plantes, des forêts, de terres pleines, beaucoup d'espèces.
Alors, justement, transition parfaite sur les plantes avec Ophélie. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai attrait et nécessité d'habiter, de s'ancrer, de réaménager des zones de province, de campagne, pour pouvoir avoir cette permaculture, cette création alimentaire et surtout d'être proche de la nature, ce dont l'être humain a profondément besoin. Donc, toutes les études psychologiques maintenant l'ont prouvé, on a vraiment un besoin de verdure, un besoin de nature. Et puis, ça nous aiderait aussi à nous réancrer dans la réalité et ne plus être totalement hors sol quand on est en béton et qu'on est attiré uniquement par la société d'hyperconsommation et d'avoir cet état aussi contemplatif par rapport à une zone un peu préservée, un peu naturelle au sein des écosystèmes sans pour autant l'idéaliser et idéaliser la rudesse que ça peut être de vivre réellement ancré dans la nature et non pas d'apporter l'urbain à la campagne avec un étalement, avec tout le confort, etc. Mais alors si on peut effectivement appuyer donc cette repopulation, cet exode urbain, de l'autre côté, Ophélie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les nuances à apporter côté justement résistance urbaine? Est-ce que premièrement, d'une part, c'est possible vraiment de revégétaliser en ville? Quelles sont les limites? Par exemple, tu peux nous parler de la tourbe, qui est vraiment une notion que j'ai découverte avec toi et qui m'a semblé absolument essentielle à connaître sur quelles sont les limites d'importer de la terre extérieure dans toutes nos constructions hors sol, en ville, pour cultiver. Et de l'autre côté, la nécessité d'ancrer aussi la résistance en milieu urbain, là où on peut s'organiser et être le plus efficace possible.
Alors déjà, sur le sujet du manque de nature en ville, je pense qu'il y a une histoire vraiment de point de vue aussi, parce que finalement, j'ai quitté la ville pour me former dans l'agriculture parce que j'étais dans ce manque-là. Mais finalement, quand je suis revenue, les choses n'avaient pas plus bougé que ça. Mais par contre, moi, mon regard avait changé et je voyais de la nature partout. Parce que finalement, quand on commence un petit peu à s'intéresser à la nature, elle sort de partout, de micro-fissures de murs, de trottoirs. Et en fait, elle investit l'espace comme ça de manière invasive. Et finalement, moi, aujourd'hui, quand je me balade en plein cœur de Barbès, oui, d'un côté, si on prend le point de vue du citadin qui souffre, il y a beaucoup trop de béton, mais de mon point de vue de quelqu'un qui travaille dans l'agriculture urbaine et qui s'intéresse à ces formes de mauvaises herbes, comme on les appelle, mais en fait, j'en vois partout. Et du coup, je pense qu'il faut aussi savoir changer de regard sur le lieu où on habite et se dire que c'est un terrain de jeu sur lequel on a plein de choses à faire. Et en tant que citoyen, on a vraiment notre pouvoir de faire et on n'a pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience en agronomie pour se lancer dans le jardinage. Donc, il y a ça, c'est déjà changer de regard et reprendre un peu, se dire qu'on est capable juste de faire pousser 3 bouts de persil en bas de chez soi. Bon, il y a cet aspect-là. Et ensuite, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais
sur la tourbe.
Sur la tourbe, voilà, c'est ça. Alors, cas très concret, donc je produis des petits plants dans une pépinière et j'ai fait le choix d'utiliser du compost de déchets verts issus des déchets verts de la ville qui sont produits donc vraiment en zone urbaine et périurbaine. Et c'était aussi parce que j'ai fait un travail sur justement quel substrat utiliser pour mes semis.
Pour ceux qui et celles qui n'y connaîtraient rien, c'est ce qu'on met dans les petits pots pour faire les semis.
Voilà, exactement. C'est la matière dont tu as besoin pour faire pousser.
Pourquoi on ne pourrait pas utiliser n'importe quelle terre de rond-point ou de toutes les zones de square qu'on trouve en ville?
Alors, bon, déjà parce que la plupart du temps, c'est pollué. Mais si on veut utiliser une matière intéressante, le compost peut être une solution. Aujourd'hui, si on va chez Truffaut, par exemple, pour ne pas les nommer, on va se retrouver avec du terreau dans lequel il y a plein de mélanges. Alors, c'est tout un univers, hein, le substrat, le terreau, le machin. Mais il y a très souvent de la tourbe, quasiment dans tous les terreaux qu'on nous propose. Et la tourbe, par exemple, c'est une matière qu'on prélève dans les zones humides. Et donc, c'est une matière qui se régénère en énormément de temps. Donc, il faudrait un an pour qu'un millimètre de tourbe se régénère. Et les zones humides, c'est des zones à côté de ça qui sont extrêmement riches en biodiversité. Et on continue de les piller, comme on pille aussi beaucoup de choses.
En fait, le terreau qu'on achète en supermarché, il n'est pas renouvelable. C'est une ressource non renouvelable.
Voilà, exactement. Et donc, alors c'est bien parce que le grand public commence un petit peu à être sensibilisé sur la dimension des semences reproductibles, des semences paysannes et tout ça. Mais la dimension de la terre, du droit à une terre, au-delà de ça, une terre non polluée, c'est très compliqué et même moi finalement ça fait très peu de temps que je m'intéresse à ce truc là et de se dire alors comment on fait en ville, est-ce qu'on va aller piller les zones où la terre est dite de bonne qualité et on va la ramener en milieu urbain, ou alors on réfléchit à des solutions comme pourquoi pas le compost qu'on produit nous-mêmes avec nos déchets. Enfin, en fait c'est plein de choses comme ça, c'est repenser mais de manière permaculturelle aussi l'endroit où on habite. Moi, je n'ai pas envie de fuir la ville parce que c'est trop pollué. Je me dis, OK, je suis là, c'est trop pollué. Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour que les choses changent ? Et c'est plus ça, c'est revoir un peu notre vision, en fait, de l'espace qu'on habite, que ce soit celui de la campagne ou de la ville, et de surtout pas se poser en victime de ça. Il y a plein d'outils pour se former, pour voir, voilà, pour découvrir les ressources qu'on a autour de chez nous. Et typiquement, j'ai arrêté en utilisatrice lambda avant que je jardinais, j'utilisais des billes d'argile parce que c'est le truc qu'on nous dit de mettre au fond de nos pots pour jardiner. Bon, bah, après quelques recherches, je me suis rendu compte que les billes d'argile, c'est une matière qui doit être chauffée à très haute température et donc c'est très énergivore à produire. Bon, et ben, en fait, je me suis rendu compte que le gravier en bas de chez moi, ça fonctionnait très bien aussi. Donc, mais tout ça, c'est des connaissances, c'est se former, c'est lire des livres, c'est justement aller participer à des ateliers. Et c'est pour ça qu'en ville, je pense qu'il y a une vraie dimension pédagogique au-delà de la production. Voilà, les plantes ont complètement leur place. Et que ce soit les trois petits bouts de persil que la grosse ferme urbaine sur un toit.
C'est super intéressant. Ça veut dire, c'est un peu le parallèle avec, en fait, on est sur la planète Terre. Essayons de l'améliorer et de la sauver plutôt que de commencer à investir des milliards pour aller sur Mars.
Ouais, moi j'ai fait le deuil sur tout ce qui est pollution. En fait, je sais que quoi qu'il arrive, où j'irai, c'est pollué en fait. Et à partir de là, fuir la ville en se disant l'herbe est plus verte ailleurs, je pense que c'est un peu du fantasme et on peut faire des super projets à la campagne. Mais avant de vouloir absolument fuir quelque chose, on peut aussi regarder ce qu'on peut faire chez nous, en fait.
Donc, au-delà de l'impossibilité physique, numérique, dont on a parlé en introduction, sur le fait que si tous les Parisiens, Parisiennes et tous les urbains décidaient d'aller en ville, il y aurait un tel étalement et une telle repopulation qu'on n'aurait plus d'espace, tout simplement, pour avoir de la nature, pour avoir des cultures, pour avoir des forêts, etc. Mais en plus de ça, il y a aussi une raison militante, une raison philosophique, une raison sociale de rester et d'investir ces territoires sur lesquels on vit, quels qu'ils soient, en fait, qu'ils soient à la campagne, qu'ils soient en province, qu'ils soient en zone urbaine ou périurbaine, de se dire, OK, comment je vais faire pour améliorer ce qui existe déjà en essayant de limiter notre impact futur. C'est-à-dire, on est déjà allé tellement loin dans la destruction de nos écosystèmes, arrêtons, sanctuarisons tout ce qui peut l'être, ouais. Et le reste, essayons de l'améliorer, quitte à potentiellement accepter aussi la densification. J'ai lu un article très intéressant sur le magazine Kaizen, qui a été rédigé par Cyril Dion, qui travaillait avec une étude de chercheurs, d'ailleurs notamment en Chine, sur un peu la cité idéale. De combien est-ce qu'elle serait constituée d'habitants, par exemple. Et on estime, alors c'est encore une zone de recherche en prémisse, et Thomas, tu pourras nous en parler un petit peu plus, mais on estime que ce serait une cité idéale entre 100 000 et 500 000 habitants entourée d'une ceinture maraîchère pour bénéficier à la fois d'une concentration suffisante sur des immeubles de 3-4 étages pour qu'on n'ait pas besoin d'ascenseur, que ce soit vivable, mais qu'il y ait quand même suffisamment de densité pour ne pas être sur de l'étalement urbain trop intensif. On peut tout faire à pied, on a un hôpital pour toute la zone, on a des écoles, c'est rassemblé, on optimise, moins de transport, moins de chauffage, moins d'exploitation de ressources en étalement. Et à l'inverse, suffisamment d'accès rapide aux zones préservées, sanctuarisées, à la fois pour cultiver de manière la plus efficace et pérenne possible avec des systèmes d'agroécologie, de permaculture, et en même temps une appropriation à une nature réelle qu'on peut aussi apporter en ville, comme tu le fais très bien avec la Green Guérilla. Un petit mot sur la Green Guérilla pour celles et ceux qui découvriraient et qui ne t'auraient pas découvert lors d'une de nos précédentes conférences sur l'arboristerie.
La Green Guérilla, c'est un mouvement qui est né dans les années 70 à New York. Et c'est un groupe de jeunes qui se sont emparés d'une friche et qui l'ont transformée en jardin partagé. Ce jardin existe encore aujourd'hui. Et il y a dans ce mouvement une notion vraiment de désobéissance civile totale, et qui est de dire, voilà, on ne va pas attendre que les lois changent pour s'emparer de zones où il y a de la terre, et on va au contraire, nous, en tant que citoyens, se mettre à faire changer les choses. Et encore aujourd'hui, c'est très anonyme, c'est ce que j'aime bien, c'est que ça s'apparente un peu aussi à toute la street culture, finalement. C'est arriver dans une zone hostile et y ramener de la vie, et il y a cette dimension aussi très altruiste. Et là, je le vois, moi, quand je jardine dans l'espace public, Il y a quelque chose qui se transforme en fait dans l'échange qu'on peut avoir avec les gens. Il y a un vrai lien social qui se crée. C'est pas forcément le résultat qui importe. L'idée, c'est pas forcément de récolter ses tomates à la fin. Par contre, c'est de réactiver un dialogue social ou un dialogue tout court en fait, et redonner une forme d'espoir aussi à des gens qui pensaient que c'était juste un espace où il y a des merdes de chiens et des canettes de bière. Et voilà, et c'est réactiver des formes d'impulsion en fait, et de ça peuvent naître ensuite des jardins, des voilà. Donc moi je suis à fond pour ça, et je milite à fond aussi pour la débétonisation. Et typiquement en zone urbaine, les cours d'école, les cours de prison, parce que c'est un peu la même architecture, devraient être débétonisées.
Et là toutes les rues piétonnisées grâce au Covid, il faut tout débétoniser.
Faut tout dégager, ouais. Mais parce qu'au-delà de la dimension, déjà c'est esthétique et tout ça, ça répond aussi à de vrais enjeux autour des îlots de chaleur, par exemple, auxquels on va devoir faire face là ces prochains étés. Bref, il y a tellement de choses à faire en milieu urbain que du coup je me dis, allons-y, c'est un super terrain de jeu en fait.
Super. Thomas, justement, par rapport à cette articulation entre exode urbain et peuplement, repeuplement intelligent des campagnes. Qu'est-ce que toi, tu as observé pendant tes années en tant que géographe environnementaliste ?
Moi, encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait un réel exode urbain. C'est plutôt pour moi, si on regarde l'INSEE, tous ces chiffres, parce qu'encore une fois, évaluer ces phénomènes, ce n'est pas évident. C'est plutôt les espaces périurbains autour des grands centres qui reprennent. Ça fait un petit peu la jonction entre la ville et la campagne. Et parce qu'il y a aussi, bien sûr, les problématiques de transport et alimentaire qui restent centrales. Et donc, ce n'est pas évident d'aller dans des endroits très reculés, à moins d'avoir beaucoup de moyens, et puis problématiques d'isolement. Donc, je pense que c'est plus les espaces autour des villes qui vont se repeupler et qui pourraient un petit peu se trouver à la croisée des deux. Et où on aurait plus de, peut-être pas chacun son potager, mais il y aurait une partition de l'espace qui serait peut-être un petit peu plus équilibrée. Mais on est toujours sur un problème qui a toujours été là, c'est aussi l'inégalité de l'espace. L'espace est inégal par définition, il n'est pas homogène, et je ne pense pas qu'il faut qu'on tente vers des idéologies trop homogènes qui ont souvent amené leur lot de problèmes. Il y a une singularité qui est spécifique à l'endroit. Et c'est pour ça, pour revenir un petit peu à la ville idéale, je ne pense pas qu'on puisse trouver un modèle qui arriverait par le haut et qui pourrait se caler partout. Il y a forcément la singularité du lieu. Et on voit quand même des villes assez importantes où le cadre de vie reste très correct, agréable, où il y a beaucoup d'initiatives citoyennes ou autres, ou d'entrepreneurs qui arrivent à effectivement trouver tout un tas de projets pour un peu réinventer la façon de vivre en ville.
Très important, effectivement. Merci Thomas, cette notion de ne pas chercher à avoir la solution idéale, parfaite, théorique, mais de s'adapter aux conditions du terrain, qu'elles soient aussi bien topographiques qu'humaine, que sociale, que historique, etc. Et de pas, voilà, de ne pas essayer de refaire l'erreur du Corbusier à vouloir faire la maison avec un tube d'air chaud, un tube d'air froid, et ça s'adapte du pôle Nord au pôle Sud, mais au contraire de s'adapter vraiment à la contextualisation du terrain et aussi aux gens qui y vivent, de ne surtout pas faire l'erreur d'arriver avec un projet d'éco-village parfait venant de la ville, où on se dira bah, il faut que là il y ait une maison, là il y ait une mare, là il y ait mes potagers, mais de voir premièrement avec les personnes qui vivent sur
le lieu
et ont la connaissance depuis 10 ans, de dire bah, là c'est un endroit où tous les 10 ans il y a une crue qui arrive, là c'est un endroit où la neige, où il y a des passages d'animaux, où il y a un besoin aussi d'écosystème, une tourbière aussi à préserver, puisqu'on a appris, là, on a eu Amandine qui nous écrit qu'elle est une ancienne fleuriste et qu'elle ne savait même pas tout ça sur la tourbe.
Mais moi non plus, je ne savais pas il y a encore quelques temps. Hein,
c'est incroyable.
Ouais, il faut vraiment s'adapter, être à l'écoute, se reconnecter à ce qu'on a autour de soi, que l'on soit d'ailleurs en ville ou à la campagne ou où que l'on soit, en fin de compte, cette reconnexion. C'est vraiment une façon déjà de se libérer de certaines choses, même parfois d'angoisse. Moi, je vois la réticence que les gens peuvent avoir par rapport aux insectes, par exemple. Déjà, rien que ça, sur la végétalisation en ville, ça va poser peut-être certains problèmes parce qu'il y en a, ils vont voir un petit peu plus d'araignées, un petit peu plus. Donc, si c'est pour tout de suite sortir l'insecticide parce qu'il y a un petit peu plus de moustiques, de moucherons, de guêpes.
Porter plainte contre le chant du coq.
Voilà, exactement. Donc, je pense que c'est très bien comme démarche parce que ça fera effectivement une mise à jour, en tout cas. Peut-être on va pas aller sur Mars. Moi, c'est complètement incohérent. Même si on pourrait y aller, qu'est-ce que vous voulez y faire, enfin, c'est invivable, Mars. Hein. Il n'y a pas d'atmosphère, justement. Il y a encore cette planète, elle est magnifique. Il y a énormément de choses à faire. Je pense qu'il faut juste se réinventer, un petit peu plus se reconnecter au réel qu'il y a autour de nous. On a tout sous nos yeux. On a tout sous nos yeux. Il suffit de l'observer. C'est pour ça que la contemplation, c'est essentiel. Encore une fois, où que vous soyez. Et effectivement, les parties prenantes, les gens en place, ce n'est pas un modèle qu'on va mettre. C'est le gros problème de l'ingénierie. C'est le gros problème des aménageurs. Ils ne savent pas sortir de modèles, de modélisation. On leur donne des financements s'ils nous pondent des modèles. Il faut toujours évaluer, chiffrer. Il y a plein de choses qui ne se chiffrent pas, qui ne sont pas évaluables comme ça et surtout pas modélisables. Donc, voilà, faut observer et y aller petit à petit. Voilà.
On a Corinne de Marseille qui nous dit qu'il y a des touristes qui ont voulu porter plainte contre les cigales. Intéressant aussi.
On est mal barré.
Ils font beaucoup de bruit. Ouais. Font beaucoup
et de alors bruit. On a une question pour Agnès de Rémy qui demande si on a des pistes de solutions ou d'idées pour faire changer les choses. Est-ce que tu observes dans le circuit associatif en campagne des solutions pour lutter contre des syndicats agricoles conventionnels de plus en plus puissants comme la FNSEA dont on parle beaucoup qui polluent de plus en plus et imposent un peu leurs lois justement grâce à des lobbies, des banques, des politiques sur des territoires qu'ils contrôlent quelque part même s'ils n'y habitent pas forcément.
Bah, on parlait déjà que ça se sache. C'est vrai que on arrive à un point où les fermes deviennent tellement grosses qu'elles ne sont rachetables que par des fonds d'investissement qui sont soit chinois, soit ceci, soit cela. Alors souvent on crie « Oh mon Dieu, les Chinois !» mais on oublie que c'est un fonds d'investissement qui a acheté, peu importe son origine. Et donc le problème là, il est vraiment réel parce qu'un fonds d'investissement, c'est pas pensé pour soigner la terre. C'est pensé uniquement pour spéculer dessus. Donc, ça c'est quelque chose à communiquer. Et ça peut être une piste de résistance. Parce que quel que soit le camp qu'on choisit, si on appelle ça un camp, je pense que la résistance, elle n'a pas de poison. Il y a l'occupation du sol, elle est aussi importante à la campagne qu'en ville, en réalité. Donc, on a plein de petits îlots, on a plein de petits agriculteurs, mais on n'a pas les structures qui permettraient de détourner les agriculteurs de ce schéma de toujours plus gros toujours plus mécanisées et qui permettent d'échapper à la mainmise des terres agricoles la mainmise sur les terres agricoles par le monde de la finance.
Eh ben, merci Agnès, ça me fait une transition parfaite pour s'approcher de notre conclusion sur le fait que tout est lié, hein. Vous le savez, on le répète beaucoup dans le collectif EDENI, on parle de l'approche ESE, écologie, santé, éthique, et que même si vous en avez marre de cette violence, de ces injustices, de ce béton, et que vous avez envie de, non pas forcément de fuir, parce que ce serait une caricature, mais en tout cas de se réfugier, et légitimement dans des éco-villages, eh bien, si vous ne vous intéressez pas à la politique, elle s'intéresse à vous. Effectivement, elle est présente à dans tous les recoins de la société et sur tous les secteurs, sur toutes les conférences dont on parle. Systématiquement, il y a cette notion du politique qui revient de ce qu'on nous impose. Et c'est très important de redécouvrir le pouvoir qu'on peut avoir, d'où le fait que certains se tournent vers le municipalisme pour pouvoir aller rechercher quelques pouvoirs, aussi petits soient-ils, sur le territoire sur lequel ils vivent, même s'il a aussi ses travers et ses limites. Mais en tout cas, on retrouve sur cette question agricole, sur cette question de la pollution, sur cette question de la contemplation en ville aussi et de comment faire pour améliorer cette notion d'autogestion locale. Et ça, je pense, au-delà de la question très politique, on en a parlé hein, sur des conférences sur l'anarchisme, sur la Green Guérilla, sur la violence urbaine et sur comment l'État peut essayer de contrôler justement un système où tu en parlais, Thomas, aussi sur de la gestion permanente, des modèles permanents qui ne correspondent pas forcément à une adaptation contextuelle. On retrouve donc cette nécessité d'autogestion locale pour se rendre compte de ce dont on a besoin localement et ce dont on ne veut pas localement. C'est-à-dire que si les décisions étaient prises vraiment sur des échelles municipales, on va dire, puisque c'est le contexte historique qu'on a en France, l'imaginaire en tout cas qui nous est facilement accessible parce que réel, palpable, eh bien on se rend compte qu'on ne voudrait pas d'un méga projet de construction d'un nouveau centre commercial qui va détruire le champ des oiseaux à côté de chez nous, qui va détruire notre accès à l'eau potable, qui va détruire le champ dans lequel nos enfants vont s'ébrouer, etc. Et du coup, une fois qu'on retrouve cette connaissance de notre territoire, des gens qui y vivent, de son histoire, des saisons qui passent, de son autosuffisance, des solidarités, eh bien, on peut retrouver une certaine maîtrise sur ce qui va s'y faire et le protéger et vouloir aussi sanctuariser ce qui est nécessaire de sanctuariser. Et du coup, je vais vous redonner la parole à vous trois pour une dernière réaction et peut-être un mot de la fin avant de prendre d'éventuelles dernières questions et de présenter et d'offrir à nos auditeurices la ressource du jour. Agnès, je te voyais réagir. Ah, on ne t'entend pas, Agnès. Non, on ne t'entend plus.
Vous avez le micro ?
Oui, c'est bon.
Oui, sur le municipalisme, le souci, effectivement, il est à la... Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que oui, ça peut être la solution, mais c'est aussi le problème. C'est-à-dire que les communes, avec la baisse de la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation, ont été littéralement castrées, financièrement parlant. Et donc, on a ici des communes, par exemple, des maires qui sont contre un projet personnellement, d'un point de vue personnel, mais qui, pour les finances de la commune, vont l'accepter parce qu'ils vont avoir l'argent nécessaire à leur fonctionnement. Donc, c'est vraiment la politique qui fait tout, enfin, le nœud du problème.
Et on est plutôt mal construit en France avec le clientélisme et les accords de parti qu'on connaît. Très bien, ben merci beaucoup Agnès pour ton témoignage. J'espère que ça n'a pas été trop difficile à à écouter et toi d'interagir dans ce lieu commun, mais c'est aussi notre adaptation contextuelle et donc c'est très bien, on fait avec Thomas.
Oui, ben pour rebondir, je voulais aussi un petit peu appuyer ce que disait Agnès sur les histoires de gouvernance et de gestion de l'espace politique en local. On est dans le millefeuille administratif français. On devait attendre la décentralisation. Enfin, il y a un tel maillage entre les communes, les communautés de communes, le département, la région, l'État et aussi l'Europe qui agit par le fonds FEDER et la PAC, mais à l'échelon régional, qu'effectivement, on est parfois dépossédé de notre capacité à participer à l'aménagement de l'espace dans lequel on vit. Et là-dedans, je pense qu'il y a vraiment un vrai enjeu. Je pense qu'en termes de conclusion, il y a pas de baguette magique, il ne faut pas être manichéen, c'est très complexe, il ne faut pas qu'on simplifie à l'extrême. Mais malgré tout, le message que je veux passer, je pense qu'à part la... Il faut vraiment qu'on soit à l'écoute des uns les autres. Il y a que le partage, il y a que être la solidarité qui pourra nous aider à faire face à certaines forces, parce qu'on est dans des rapports de force, on est dans des conflits de représentation qui sont quand même terribles, et aussi de capacité d'investissement. Les fonds d'investissement, ils rachètent énormément de choses. Justement, c'est un petit peu l'image, les derniers seront les premiers, paradoxalement. Ils aiment bien acheter les endroits qui sont le moins exploités parce que, ou les plus reculés, parce que c'est ce qui a encore un peu de valeur, notamment au niveau de la biodiversité ou de systémique naturelle qui reste encore un peu. Même si on a des grands champs à côté, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas aider à régénérer le peu qu'il y a en replantant, en remettant, voilà. Et ça, je pense que plus on sera nombreux à s'unir dans ce combat, plus ça portera de fruits, quoi, tout simplement.
Donc, régénérons, étendons notre sphère de considération aussi à la toile du vivant qui nous entoure. On n'est pas tout seul à décider et à peupler un territoire. Il y a des vers de terre, il y a des oiseaux, il y a des plantes qui vont être impactées par notre arrivée et qui étaient là avant nous et qui ont aussi leur droit à vivre et dont nous avons besoin en plus. Ophélie, Zadpartout.
Zadpartout, voter c'est bien, mais désobéir c'est aussi nécessaire. Et je pense qu'en tant que citoyen, c'est aussi de notre responsabilité de dire non en fait et d'occuper les espaces pour les protéger. Donc voilà, je pense qu'il faut pas attendre que les pouvoirs publics nous prennent par la main, mais au contraire qu'on les secoue un petit peu en désobéissant tout simplement.
Et alors, pour désobéir, j'ai envie de citer tout simplement ton manifeste qui est vraiment le guide à suivre pour pouvoir changer la ville sans la quitter. Ophélie, tu sors le manifeste pratique de végétalisation urbaine, 5 actions coup de green pour s'attaquer dans la suite de ta BD Green Guérilla qu'on a toutes et tous adoré et dévoré et partagé. Là, c'est un peu la suite pour planter partout et plantez-vous, quoi.
La suite très pratique. On est sur du concret. C'est comment construire des bacs au pied des arbres à comment investir une ZAD, faire des graines germées. Enfin voilà, on est sur du concret.
Super. Et c'est aux éditions Solar. Super. Je vais vous demander, comme à l'accoutumée dans ces conférences d'intérêt général des Denis, d'offrir à nos auditrices une ressource. Ça peut être un podcast, une vidéo, un livre, un conseil, ce que vous voulez pour repartir avec un petit truc en plus à explorer en attendant la prochaine conférence. Ophélie.
Tu me prends de court.
Ok. Agnès. Je te prends de court aussi. Bravo. Des super invités qui ont bien bossé.
Je peux s'il y a de la place.
Vas-y Agnès.
Moi j'ai bien aimé le podcast de Claire Desmarres-Poirier sur la chaîne Présage. Claire qui traite justement l'épisode urbain.
Ok.
Et sinon j'ai un petit livre qui m'accompagne depuis longtemps qui est une fable dont on ne parle pas assez. C'est La ferme aux animaux de George Orwell. On parle beaucoup de 1984, mais...
De George Orwell, effectivement un classique à lire et à relire sans modération. Merci beaucoup Agnès. Thomas.
Merci à vous.
Pour de la géographie, si vous êtes intéressé par les questions un petit peu plus, enfin, rentré dans le sujet, vous avez Guy Diméo qui avait fait un ouvrage qui s'appelait Géographie urbaine. Vous avez Pierre Donadieu aussi de l'école de Versailles qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Vincent Berdoulet aussi, qui était à l'université de Pau aussi, qui travaille beaucoup sur l'écologie urbaine, dans la continuité de la sociologie urbaine, sur les interactions complexes. Voilà, sinon, y a plein de conférences intéressantes. Là, j'en ai une en tête qui est sur un thermodynamique de l'évolution, je crois. Enfin, c'est un thermodynamicien qui fait le parallèle entre la thermodynamique et l'évolution des sociétés sur YouTube. Je crois qu'il s'appelle Rogier, ce monsieur. Voilà, sinon j'en ai pas d'autres qui me viennent tout de suite à l'esprit.
C'est déjà très bien, tu as été très généreux
Voilà.
en ressources, Thomas, merci beaucoup.
Merci à vous.
Ophélie.
Du coup, moi, j'ai rencontré donc les écrits de Flaminia Padeux. Donc, je ne suis pas capable de vous ressortir les titres précis, mais cette dame est, à mon avis, très intéressante à suivre sur ses travaux autour de, voilà, de la justice environnementale et alimentaire, et particulièrement en milieu urbain. Et sinon, je voudrais vous parler aussi d'une initiative très, très concrète qui peut être faite en ville, c'est le Parking Day. Qui consiste, alors c'est un mouvement international, alors normalement c'est à la fin septembre. Alors là, je ne sais pas cette année avec le confinement, tout ça, ce qui va se passer, mais le principe est très simple, c'est qu'on achète un ticket à l'horodateur pour une place de parking et à la place d'y mettre une voiture, on y installe ce qu'on veut, donc un mini jardin avec des plantes, on ramène ses potes et on s'installe. Et c'est une manière de réinvestir cet espace qui est largement occupé par les voitures et de le faire de manière très conviviale et rigolote pour interpeller aussi les passants et leur faire se rendre compte que en fait cet espace pourrait être complètement transformé en micro-jardin. Donc voilà, ça s'appelle le Parking Day et il y a plein d'informations qu'on peut trouver. Il y a un site internet dédié et je trouve cette initiative hyper fun. On peut se dire aussi que la désobéissance civile, ce n'est pas forcément un combat où à chaque fois on est armé et on est super vénère. Ça peut être des initiatives aussi très rigolotes, vraiment pour tout le monde, y compris les enfants, et que ce soit fait vraiment dans la joie, quoi.
Ouais, et puis c'est super de réinvestir l'espace occupé par les voitures quand on sait qu'elles occupent plus de 50% de l'espace public en ville. Donc c'est vrai que c'est une super initiative. Moi, j'ai deux petites ressources à vous offrir. Alors peut-être d'un côté comme d'un autre, pour celles et ceux qui nous écoutent depuis la campagne, comment saboter un pipeline d'Andreas Malm, vous en faites ce que vous voulez. Et de l'autre côté, le grand pari après l'effondrement pour tous les franciliens et franciliennes d'Anaïs Sinaï, Yves Cochet et Benoît Tévard. Le sous-titre, c'est Pistes pour une Île-de-France biorégionale. Voilà pour les deux petites ressources. Et puis d'ici là, eh bien, je vous souhaite une très bonne rentrée à toutes et à tous et à très bientôt sur les ondes pour un nouveau podcast Edeni. À bientôt. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Salut.